Depuis quelques semaines, elles sont devenues familières. Covid Shield, AB Trace Together, Covid, Stop Covid ou bien encore Smith Stop. Des technologies qui présentent tout un point commun, signaler aux autres notre état viral pour éviter tout contact et tout risque de propagation massive d'une prochaine épidémie. Bref, face à un ennemi invisible et sournois comme peut l'être un virus, elles sont censées vouloir notre bien. Seulement voilà, à trop vouloir dévoiler notre intimité physiologique, à faire preuve d'une absolue transparence sanitaire, à laisser les processeurs et autres algorithmes s'exprimer à notre place, la technologie finalement n'en ferait-elle pas un peu trop? La technologie va-t-elle trop loin? Avec Stéphanie Cabre, Joseph Elfassi, Anne-Sophie Casper et nos trois invités, nous allons tenter de répondre à cette question. Et dans une heure, on l'espère, c'est plus clair.
Le service numérique canadien et en collaboration avec Shopify, BlackBerry et le gouvernement de l'Ontario, on est en train de développer une application mobile à l'échelle du pays qui va informer les usagers s'ils ont été exposés à la COVID-19.
Vie privée, la technologie va-t-elle trop loin? Un balado C'est Science IA, animé en direct par Stéphanie Cabre et Philippe Régnier.
Salut Stéphanie!
Salut Philippe, salut à toutes et à tous!
Alors nous sommes en direct et en très bonne compagnie aujourd'hui avec trois beaux invités que vous allez avoir le plaisir de nous présenter dans quelques instants. Mais avant cela, Joseph, on vient d'entendre un extrait de l'annonce faite par le Premier ministre Justin Trudeau le 18 juin dernier, un appel donc du 18 juin un petit peu particulier, qui pourrait se résumer ainsi, Canadiens, tous à vos téléphones intelligents. C'est un peu ça, non?
Oui, en quelque sorte, le Canada a finalement pris sa décision et a décidé de lancer une application développée par Shopify et BlackBerry sur une API de Google et Apple pour développer cette application de traçage. On écarte, par exemple, l'application COVID développée par Mila et on est encore un peu dans le suspens à savoir si ça va rejoindre certains homologues d'autres pays. Par exemple, la Norvège qui a fini par abandonner son application avec seulement 600 000 adeptes. En France, on a l'application Stop Covid qui a été relativement controversée avec un taux d'adoption de moins de 3 %. L'endroit qui bat les records en matière de, mettons, Occident, etc., c'est l'Islande avec 40 % d'adeptes dans sa population d'à peu près 400 000. Et il y a aussi en Australie, Covid Safe qui n'a pas été si populaire. Donc, on se demande si le choix du Canada avec Shopify va mener à un succès ou à un autre, disons, raté sur la scène internationale.
Merci Joseph pour cet état des lieux. C'est vrai que depuis le début de la pandémie, c'est tout un arsenal de solutions technologiques qui a été déployé partout dans le monde. L'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts de l'IA et du numérique, en recensait 70 à travers le monde. Des dispositifs critiqués dont le succès est inégal, on le disait. C'est dont on va parler avec nos invités. Nous sommes en direct avec Yves Gingras, vous êtes directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies. Bonjour.
Bonjour.
Avec Laetitien Martin Gibert et Anne-Sophie Letellier, experte en cybersécurité, co-directrice des communications de Crypto Québec. D'abord, j'ai envie de me tourner vers vous, Yves Gingras. On vous a beaucoup entendu sur le sujet. Les applications de traçage de contact, faut-il y aller ou pas, selon vous?
La réponse courte, parce qu'on est à la radio, c'est non. Et la première réponse, c'est de se demander d'abord si on voulait les utiliser, il faudrait d'abord établir en bonne science leur efficacité. Or, ici, il faut faire de la rhétorique 101. Lorsqu'on écoute les gens dire « Oui, en utilisant COVID-Stop ou X, Y, Z, on va détecter X, on va faire ci, on va faire ça. » On a un discours au présent éducatif qui nous dit « Ça fait ci, ça fait ça. » Ben moi, j'ai été formé en physique. Là. Quand quelqu'un me dit « Ça fait ci, ça fait ça. »
Faut un doute.
Bon, comment ça marche? Montre-le-moi. Ah, ben là, effectivement, ça marche pas tant que ça, notre affaire. OK. Il y a personne depuis 4 mois qui répond pas à une question élémentaire de niveau secondaire 5. Quel est le taux de faux positif? Or, en santé publique, si vous avez un taux de faux positif de 10 %, ce qui est généreux, parce qu'en Israël, le taux de faux positif est de 93 %. Oh. Vous allez envoyer, au nom d'intelligence apparente, des gens se faire tester pour rien, pour les gaspiller des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Donc, il faut arrêter de prendre ses rêves pour la réalité. Il faut tout tester. Ça s'appelle de la vraie science. Les informaticiens font des codes informatiques. Les scientifiques regardent la réalité comme les sociologues regardent la réalité sociale.
Stéphanie.
Alors, mais en fait, vous dites ça, mais pourquoi on ne les teste pas alors? C'est la question.
Ben, c'est ça qui est très intéressant. Demandez-vous pourquoi Mila, depuis 4 mois, au lieu de dire, écoutez, on fait un gadget et dans un mois, on va aller sur l'île Bizarre ou n'importe où, on va prendre 1000 personnes, les
alors,
Allemands
on peut,
ont
on peut pas vous laisser dire que c'est un gadget parce que ça a quand même été développé avec le gouvernement fédéral.
Est-ce que vous voulez dire que le gouvernement fédéral peut pas développer de gadgets? Le gouvernement fédéral a dépensé plus que 4 milliards de dollars quand des informaticiens leur ont dit qu'ils pouvaient faire un système pour faire des chèques. Ce système-là ne fonctionne pas depuis des années et ça coûtait des milliards de dollars aux Canadiens.
Aux contribuables.
Donc, un instant avant de dire, alors, si Dieu le dit, c'est vrai.
Alors, Trudeau, on va laisser Dieu se reposer.
Il va falloir revenir à Trudeau pour comprendre pourquoi lui a pris la décision. Parce que là, on est dans les relations fédérales-provinciales et la santé publique relève des provinces. Donc, alors, c'est une stratégie fédérale.
Alors, Yves Gingras,
de prendre le contrôle sur la santé publique.
Avant de revenir, c'est bien, il démarre en force, Yves Gingras, on aime ça. Avant de revenir justement sur ce choix fait par le gouvernement fédéral, peut-être une réaction justement, Anne-Sophie Letellier. Est-ce que vous êtes d'accord déjà sur cette position qui est développée par Yves Gingras? Finalement, la réponse, elle est claire, hein, c'est non pour vous, Yves Gingras. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je tends, oui, à être d'accord avec ça. J'ai une tendance à être extrêmement sceptique par rapport aux applications de traçage de contact. D'abord et avant tout, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'efficacité qui est prouvée. En ce moment, on a de la théorie. Mais dans la pratique, et c'est là qu'on voit pays après pays, il n'y a pas de systèmes qui sont probants. Puis je pense aussi qu'on a posé la question peut-être de la mauvaise manière. Je pense qu'on a essayé de se dire, OK, comment on peut faire des applications de traçage de contact avec la technologie? Moi, la question que j'aurais aimé voir se poser, c'est comment la technologie peut nous aider dans la situation présente et pas assumer qu'on avait besoin de la technologie pour le traçage de contact. Peut-être voir qu'est-ce qui était demandé et nécessaire sur le terrain. Puis je pense que ça a été ça l'erreur fondamentale.
Martin Gibert, une réaction par rapport à ça?
Alors, moi, je dirais que moi, je suis beaucoup plus incertain que mes camarades sur le pronostic. On est dans une situation vraiment exceptionnelle. Il y a des enjeux de santé publique et on est face à une décision super délicate avec des collègues du centre de recherche en éthique. On s'était réunis pour un peu identifier tout ce qui pouvait arriver. Et oui, il y a comme souvent en éthique, il y a des espèces de balances il y a des équilibres à trouver. En particulier, là, le plus évident, ça serait probablement entre sécurité, santé publique d'un côté et puis liberté de l'autre. Mais là où il y a de l'incertitude, c'est en particulier sur l'efficacité du dispositif, elle est vraiment pas prouvée. Moi, ce qui me fait dire, ça peut quand même valoir la peine, c'est ça, c'est qu'on l'a pas testé. Et si ça marche, c'est bon pour tout le monde. Quoi.
Mais en même temps, j'ai envie de vous poser la question à tous les trois. Est-ce qu'il fallait pas à un moment donné commencer par quelque chose, tester finalement pour se poser la question de savoir si ça marche?
Il faut pas parler dans les généralités philosophiques. La réalité empirique, elle est simple. L'Australie le fait, Singapour le fait, la France le fait, l'Islande le fait. Donc, quand on dit, on aurait dû le tester, ben oui, c'est ce que je dis, on le fait. Okay? Et donc, Israël, qui est quand même un logiciel fait par le Sinbet, si ma mémoire est bonne, qui est le service secret israélien qui sait probablement faire des logiciels, et qu'on découvre le 6 juin dans le Jerusalem Post que 93% est faux positif, il faut arrêter d'être dans l'abstrait de dire on le sait pas. Ben oui, on le sait, c'est 93%. Les autres, on ne le sait pas. Pour quelle raison on le sait pas? Et ça, c'est des questions techniques. Parce que les algorithmes, ceux qui les propagent et ceux qui en parlent, ne font pas de tests de faux positifs. Ils font apprendre le bebel et après, ils nous disent, on détecte la face d'un jaune, la face par exemple, d'un gay. Hein? Il y a un logiciel intelligent qui a été fait aux États-Unis qui a fait ça. Donc, il faut être concret. Donc, on a testé, ça marche pas. Est-ce que dans 2 ans, ça va marcher? Peut-être. Moi, je suis physicien. Je sais comment ça marche. Donc, peut-être que dans 5 ans ou dans 2 ans, ça marchera. Mais aujourd'hui, il y a personne qui peut me dire qu'on le sait pas.
Personne ne peut le savoir. Personne n'a vérifié, effectivement, ces données-là.
Si ça pouvait déjà marcher un petit peu mieux pour la seconde vague qu'on attend, là, ça serait pour moi.
Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu mieux? Il faut faire des probabilités. Si 40% de la population, par exemple, on dit, faut que 50% de la population le télécharge.
On rappelle qu'il y a eu beaucoup, en fait, je crois que c'est dans Science, en fait, il faut que 60% de la population l'utilise pour que ça marche. Justin Trudeau, lui, a dit qu'il fallait que 50%. La moitié des Canadiens l'utilisent.
Mais ce qu'il faut comprendre...
Moi, j'ai des informations qui disent que ça ça marche même à beaucoup moins que ça. Ça marche beaucoup moins, mais c'est pas du tout rien. Non, donc c'est sûr qu'avec 60%, ça serait extraordinaire.
Mais disons que c'est ça.
Peut-être même avec 10%, il y aurait déjà des résultats intéressants.
OK. Non. Il faut faire de la science élémentaire. C'est des probabilités. Si 100% de la population le porte, ça veut dire que la probabilité que A rencontre B est égale à 1. Si 50% de la population l'a, ça veut dire que la probabilité que A rencontre B est quoi? 25%. 5 fois 5 égale 25. Donc, quand c'est 20% de la population, comme c'était le cas, c'est un éditorial de Nature, donc, OK, qui dit que 20% de la population de Singapour l'avait. 2 fois 2 égale 4. Donc, il y a 4% qu'avec votre téléphone et votre téléchargement, vous rencontriez. Donc, il faut arrêter l'abstraction. La science, ça se calcule. Les algorithmes, on sait comment ça marche.
Alors, c'est pas compliqué. Alors, on va laisser peut-être Anne-Sophie qui voulait parler.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi... On se questionne beaucoup sur l'efficacité, moi la première, de ces applications-là, du taux de pourcentage qu'il faut pour s'assurer qu'il y ait des prévisions qui sont fiables. Mais quelque chose que je remarque beaucoup dans les débats et aussi dans la manière dont on présente les applications, c'est qu'on présente un peu de manière volontaire ou non les applications comme étant quelque chose qui est en stand-alone. Donc, on va dire, OK, justement, ces applications-là, ils n'ont pas un bon taux de rendement. Il y a beaucoup de faux positifs, il y a beaucoup de faux négatifs, toutes des choses qui sont vraies. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de savoir par rapport à COVID Shield, parce que apparemment que le gouvernement a donné le feu vert là-dessus, et qu'est-ce que j'ai envie de savoir aussi pour n'importe quelle application, c'est... Dans quelle mesure ça fait partie d'une stratégie de déconfinement? On le sait qu'il va y avoir des faux négatifs, des faux positifs. C'est quoi l'efficacité réelle que ça peut avoir? Comment ça va venir complémenter certaines mesures? Quelles sont ces mesures? Mais après ça, moi aussi, j'ai une formation un peu plus en sociologie, donc je parle un peu plus de la perspective sociale. J'essaie de penser qu'est-ce qui se passe quand cette technologie-là atterrit dans la société? C'est quoi l'impact d'avoir des faux négatifs, des faux positifs? Moi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est que des faux négatifs, ben ça amène, par rapport aux normes d'hygiène, une déresponsabilisation des individus. Mmh. Et pour les faux positifs, donc le risque, justement, on reçoive une notification très binaire, hein, avec COVID Shield, c'est une des choses que j'ai...
Je l'ai ou je ne l'ai pas, c'est ça.
C'est ça. C'est ce qui différencie de l'application de Mila, en fait, qui utilisait l'intelligence artificielle.
Et puis, si on a justement beaucoup trop de faux positifs, ben, qu'est-ce qui peut s'arriver en contrepartie? C'est que les gens vont se désensibiliser aux alertes et ils ne vont pas engager, ils ne vont pas prendre ça au sérieux. Donc, il y a vraiment ce risque-là qui est de toutes parts. Donc, c'est vraiment, je pense, faut vraiment penser ça... En relation avec la société et en relation avec les politiques publiques également. Là. Parce que si on ne fait pas ça, on manque la moitié du débat.
Oui. Et sociologiquement, comme vous dites, la population, qui est à risque? Les petits geeks entre 20 et 30 ans? La réponse est non. C'est les gens de 60 et 10 ans.
En même temps, ils peuvent être porteurs, hein, Jacques.
Ils peuvent être porteurs. Et là, vous savez, les dernières nouvelles...
Ils restent chez eux devant leur écran.
Il faut regarder comment ça marche? Parce que sinon, on croit aux extraterrestres. Hein? Quand on dit qu'il ne faut pas contacter les extraterrestres comme Elon Musk parce qu'ils sont des méchants, il a oublié sa physique parce que la vitesse de la lumière est telle que ça va prendre du temps.
Mais il manquerait plus qu'il l'ait aussi.
Il faut être concret. Et en pratique, donc il y a très peu de gens qui vont l'avoir. La probabilité qu'ils se rencontrent les deux téléphones et qu'ils se disent bonjour est encore plus faible. Et ceux qui vont les avoir ne sont pas les plus à risque. Donc, j'avais parfaitement raison, et sur le plan social, et aussi sur le plan technique.
Martin Gibert, allez-y.
On s'entend tous pour dire que ces applications sont hyper critiquables, loin d'être la
solution.
Elles
sont imparfaites, c'est ça qu'on dit.
Imparfaites. La question, c'est est-ce que c'est quand même mieux que rien?
C'est ce que j'ai compris de ce que vous dites.
Et là, pour moi, c'est vraiment pas clair que... peut-être que
vous dites pas c'est un gadget, en fait.
C'est un peu mieux. J'attends de voir.
OK, si je peux répondre, parce que ça, je connais ces discours-là et ça m'intéresse, parce que c'est très intéressant. Je m'excuse, j'appelle ça le discours des généralités. Par exemple, ça sert peut-être à quelque chose. OK, à quoi? En Australie, ils ont annoncé qu'avec tout leur brouhaha, le premier ministre, rappelez-vous, au début, a dit « faut que tout le monde le fasse, c'est comme de la crème solaire, ça empêche. » C'est ça qu'il a dit. Il faut écouter le discours. À la fin, ils ont dit « ben, il y a un cas qu'on a détecté. » Là, il y a des gens, des génies. « Ah, ben, un cas, c'est mieux que rien. » Je m'excuse. Combien de millions de dollars ou de dizaines, de centaines de millions de dollars que le Québec a mis dans Mila, qui a servi à une patente dont on ne connaît à peu près rien.
Parce qu'on ne l'a pas utilisé.
Donc, concrètement, il faut être concret. Est-ce que ça sert à quoi? La réponse, c'est non.
C'était la seule application qui avait une approche prédictive, en fait, quand même. C'était pas une application binaire.
OK, et il va falloir y venir, parce que si je vous dis que moi, je prédis des choses, moi, là, je vais dire, tu prédis des choses, parfait. Montre-moi le code, OK? Si vous dites, OK, j'ai calculé la probabilité, si vous avez le... Si vous êtes obèse, si vous êtes ci, si vous êtes ça, quelle est l'efficacité de cette probabilité-là? je trouve assez extraordinaire socialement qu'on laisse quelqu'un dans la société nous dire ça, alors que quiconque a fait un peu de maths et de probabilité va dire, là, vous multipliez la probabilité 1 par la probabilité 2 par la probabilité 3 par la probabilité 4. Give me a break. On est en train de délirer, là.
Yves Gingras, Martha Gibert, il pose une question qui est quand même intéressante. Il dit, effectivement, c'est imparfait, ces applications-là. Puis on est tous d'accord pour dire, finalement, ça mériterait de... Mais s'il n'y avait pas ces applications, qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Mais c'est très simple. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 mois?
Yves Gingras.
Qu'est-ce qu'on vient de faire depuis 4 mois, là? On vient de déconfiner. Les taux sont à peu près à 100, j'ai vu aujourd'hui, quoi, 100 nouveaux cas, un mort. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 mois? Est-ce qu'on a écouté les informaticiens? Ben non, on a fait, comme on vient de le dire, de la santé publique.
Puis dans une deuxième vague hypothétique, qu'est-ce qu'on fait?
Dès que la deuxième vague arrive, on le dit, on espère que la santé publique va être mieux préparée.
Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de ces applications-là, justement, pour prévenir?
Parce que c'est de la vie.
Si je peux me permettre,
Anne-Sophie Letellier.
Je pense que, à la fois, je me pose comme personne qui est extrêmement critique de ces applications-là, mais je pense que de tous les bords du débat, il y a vraiment cette volonté-là, d'une part et d'autre, de sortir du confinement et de sortir de cette pandémie-là vite et de sortir mieux également. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête. Puis, c'est pour ça que je pense que le débat en ce moment, pas en ce moment précis, mais en général au Canada et au Québec, il faut vraiment se questionner, en effet, est-ce que la technologie peut nous donner un coup de main? Si la technologie est imparfaite, faisons justement un calcul coût-bénéfice. En ce moment, je doute qu'il y ait des bénéfices, mais ceci dit, il faut faire cet exercice-là. Et d'une part, il faut que des personnes qui sont peut-être plus critiques comme moi assument que peut-être la technologie peut faire quelque chose pour nous aider. Mais il faut aussi que, d'une autre part, les personnes qui créent les applications et les personnes qui sont enthousiasmées par ça n'aient pas ce discours d'inévitabilité technologique. Je pense qu'il faut assumer que peut-être la technologie n'est pas notre meilleure solution. Puis si on n'a pas ces deux parties-là du débat, c'est pas un vrai débat.
Puis de ce que vous disiez, puis on terminera cette première partie avant la pause musicale là-dessus, Yves Gingras, c'est qu'on dépense quand même beaucoup d'argent pour ces solutions-là. Est-ce que c'est de l'argent qui devrait être mis, finalement, si je comprends bien votre logique, ailleurs?
Ça me semble absolument parfaitement évident et qu'on devrait demander de la transparence. C'est assez que des gourous nous viennent sur toutes les plateformes nous dire des choses que personne n'a osé dire. Est-ce qu'on peut vérifier peut-être? On dit, nous, on veut sauver des vies. Tout le monde veut sauver des vies, là. Donc, quelle est la transparence de ça? Et quand on dit les choses sont imparfaites, ça, c'est de la rhétorique. Quand
mais
quelque chose est imparfait, on doit le tester.
Alors, on va laisser justement les imparfaits répondre avant la pause musicale, effectivement. Et Martin Gibert.
L'humain est imparfait, Dieu l'a créé imparfait, ça veut rien dire.
J'ai oublié ce que j'avais à dire, Yves m'a...
vous avez rattrapé un petit peu de temps quand même, hein. Mais ça peut revenir après la pause musicale,
oui,
sinon.
Peut-être.
Alors justement, on va lancer un petit peu, pour nous laisser respirer 2 petites minutes, la pause musicale.
Oui, si, ça m'est revenu.
Alors, Ariane va attendre un petit peu, Ariane Moffat, on la remet... Alors, Martha Gibert, c'est ça qu'on aime.
Ces questions, ça coûte cher. Oui, mais c'est relatif. Et puis, c'est un truc d'information. L'information, ça se réplique très bien. Donc, si ça marche, si ça marchait, ça pourrait être extraordinaire parce qu'il suffit que des personnes aient des téléphones cellulaires intelligents. Puis ça, il y en a dans le monde, il y en a beaucoup.
On est d'accord. Si les chiens avaient des scies, il y aurait plus de poteaux.
Ah ben voilà. Et ça, c'est une bonne transition pour amener Ariane Moffat. Il y en a pas, mais c'est super.
Roulement de hanche, c'est par la danse que tu survis. Ton corps en transe clame son innocence. Tes grands yeux bleus brillent par leur absence. Tu rêves de mieux, mais tu perds au change.
Jeanne Moffat et les apparences, single extrait de son prochain album, et l'artiste sera la maîtresse de cérémonie de tout le Québec à l'unisson. Aux côtés de Pierre Lapointe, c'est ce soir à partir de 20h en direct de 4 grands réseaux, Télé-Québec, Ici Télé, TVA et V, ainsi que sur les ondes de rythme, c'est quoi ? Cube Radio, pour célébrer bien entendu la fête nationale.
Beaucoup de craintes, effectivement. Il y a un nouveau sondage qui a été publié ce matin, celui d'Avira, auprès de 2000 Américains. Et voyez, 29% seulement des Américains utiliseraient l'application lorsqu'elle va être déployée aux États-Unis. Et parmi les craintes qui sont les plus souvent mentionnées, il y a le manque de confiance envers les compagnies technologiques. Également, on a des doutes quant à l'efficacité de l'application. On mentionne également un faux sentiment de sécurité. Mais la raison qui revient le plus souvent, c'est vraiment les craintes pour la vie privée. Donc, le gouvernement va devoir faire un effort pour convaincre les Canadiens d'adopter cette application-là.
Vie privée, la technologie va-t-elle trop loin? Un balado, c'est Sciencia, animé par Stéphanie Cabre et Philippe Regnault.
Alors, Joseph, on vient d'entendre un extrait du téléjournal de Radio-Canada diffusé le 18 juin dernier. On y entend les deux animateurs du téléjournal justement présenter un sondage qui illustre combien les craintes des populations sont réelles à l'égard des technologies. Ce sondage, elle a été effectué aux États-Unis, mais j'imagine qu'ici, c'est quand même aussi le même type de réalité au Canada.
Ouais, ben en fait, il y a la firme Léger qui a réalisé un sondage du 24 au 26 avril, donc il faut quand même prendre une certaine distance. Les choses ont beaucoup évolué depuis. Mais il y avait 45% des Canadiens qui se disaient favorables à ce que les gouvernements utilisent les données de localisation des appareils mobiles afin d'encourager les mesures de distanciation sociale et de confinement volontaire. Fait notable, parmi les répondants, les 55 ans et plus étaient beaucoup plus favorables à ces technologies, alors qu'ils sont un peu beaucoup plus la cible du virus, alors que les plus jeunes semblaient quand même un peu réfractaires.
Alors, avant de parler de vie privée, en fait, je voulais rebondir parce qu'en fait, nos invités nous posent des questions sur notre fil Facebook.
C'est plutôt les internautes qui nous posent des questions.
Nos internautes qui posaient, pardon, lapsus. Nous avons une question d'Élise Dessonnier, en fait. Et même si ça ne sert à rien cette fois-ci, on va en avoir d'autres, des pandémies. Il faut bien commencer quelque part pour avoir peut-être un outil efficace dans 10 ans. La science est peut-être aussi des essais et des erreurs. Vous lui répondez quoi?
C'est très simple. Si elle m'a bien écouté, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut tester. Mais si vous écoutez ce qu'on a dit, il n'y a personne qui a dit qu'il voulait tester un appareil. On dit il faut utiliser l'appareil. Moi, je dis testons-le. Donc, on se donne, mettons, une année et on me donne les taux de faux positifs. Dans tout système de santé canadien, lorsque vous avez un test, par exemple, pour une molécule, le service de santé dit si le taux de faux positifs et de faux négatifs est plus bas que 10%, on ne l'homologue pas. Donc, moi, je connais assez la technique.
Il faut un seuil, en fait, c'est ça que vous voulez dire.
Il faut le connaître parce que ça va avoir des conséquences sur la santé publique. Donc, lorsque ça aura été démontré que ça fonctionne, moi, j'ai une formation en physique, je suis pas anti-technologie, mais comme je sais comment ça fonctionne, je sais ceux qui veulent nous enfariner en faisant passer des choses pour réelles alors qu'elles ne le sont pas.
Alors, on est en direct, hein, elle vous répond en direct, Élise Dessonnier, et puis c'est intéressant, si on avait sondé la population sur les vaccins au 19e siècle, on aurait sans doute eu peu d'engagement.
Je suis d'accord, parce que moi, je suis contre les sondages. Moi, là, si j'écoutais les sondages, je n'écrirais pas dans les journaux.
Bonne réponse.
OK. Oui, je suis contre les sondages pour la vraie science. Et au 18e siècle, effectivement, les vaccins, on sait comment ça fonctionne. Puis aujourd'hui, il y a du monde contre les vaccins. Il faut simplement pas s'en occuper. D'accord. Et leur dire, si vos enfants sont pas vaccinés, c'est votre droit, mais ils n'iront pas à l'école. Point barre.
Je voulais revenir en fait à la thématique de la liberté. On l'a vu que partout ici et là, les questions soulevées concernant les atteintes à la vie privée, la confidentialité, la gestion des données sont venues nourrir en fait le débat que les applications soient centralisées ou décentralisées, qu'elles soient utilisées via la technologie Bluetooth ou GPS. Martin Gibert, vous êtes éthicien. Ces craintes en fait de voir une intrusion de la technologie dans nos vies privées sont-elles justifiées?
Oui, mais là encore une fois, c'est une question de balance. Mais c'est sûr, dès qu'on recueille des données, il y a des risques de fuite de données. Il y a quand même eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour avoir des systèmes décentralisés. Ou c'est difficile, c'est pas impossible, mais c'est difficile de savoir qui m'a transmis éventuellement le virus. Donc moi, je trouvais qu'il me semblait qu'il y avait, ouais, c'est ça, il y avait des efforts. Et de toute façon, là encore, faut comparer, quoi, sur le, les questions de vie privée, des toutes les applications qu'on télécharge, moi le premier, là je fais absolument pas attention à ça, donc je serais un peu hypocrite de dire oulala non, ça je vais pas télécharger cette application parce que pour moi la vie privée c'est très très important. Non, c'est pas vrai, c'est pas si important que ça, je fais pas attention.
Mais alors vous dites qu'on a abdiqué notre vigilance finalement de citoyen, Martin Gibert?
Non, parce que je sais pas quel serait le bon niveau, donc je peux pas comparer.
Anne-Sophie Letellier.
Oui, je pense que, en effet, ce choix-là lié à la vie privée, je pense pas que ça doit être un choix qui relève de l'individu. Je pense que c'est absolument normal et légitime que l'individu s'en préoccupe. Mais je pense justement que de dire qu'on l'accepte pour... Dans plein d'autres contextes, ces entraves à la vie privée-là, ça doit pas tenir la route dans le domaine de la santé et en matière de santé publique. Je pense qu'on a besoin vraiment des normes les plus rigoureuses parce que ça va être... D'abord, c'est de l'information qui est sensible. Je pense également que, justement, faire le choix de la technologie Bluetooth et d'utiliser le API de Google et Apple, c'est des choix qui sont judicieux et qui viennent donner une petite couche de protection en matière de sécurité de plus.
Il y a quand même des zones d'ombre, en fait, avec l'API de Google et Apple, non?
Il y a des zones d'ombre, mais surtout, je pense qu'il y a beaucoup plus de zones d'ombre, relativement à l'application COVID Shield en ce moment. J'ai essayé de trouver de l'information liée aux pratiques de sécurité. On parle
d'anonymisation.
D'anonymisation, de randomized ID, donc des, justement, que c'est pas de l'identité, c'est pas un nom personnel qui va être attribué à nos données, mais un numéro quelconque. Ça, c'est très peu d'informations pour dire quelles sont les méthodes d'anonymisation. C'est pas suffisant. Leur politique de confidentialité, et leur politique qui décrivent leurs meilleures pratiques en sécurité fait 709 mots. Comparé à l'application COVID que je trouvais problématique à d'autres égards, mais on avait un white paper qui était de plusieurs dizaines de pages détaillait comment...
Non, en anglais. Français, ils l'ont traduit en français aussi.
Ça a pris deux mois.
Il y a eu la pandémie entre-temps.
Mais l'essentiel, c'est qu'on voyait justement qu'il y avait pensé à des attaques, il y avait pensé à des manières de mitiger ces attaques-là. Là, en ce moment, on nous dit c'est sécuritaire, c'est anonyme, on a travaillé avec BlackBerry. Je demande pas à tout le monde de lire les politiques de confidentialité, mais on est un certain nombre d'experts qui aimeraient y avoir accès pour pouvoir donner une opinion éclairée. Puis la réalité, c'est que je peux pas avoir cette opinion éclairée là en ce moment. Donc, parce qu'il y a pas cette transparence.
Concrètement, le 2 juillet, est-ce qu'on doit la télécharger, COVID Shield?
moi, je vais pas la télécharger, mais je pense que tout le monde agit selon. Je pense pas que justement ça doit être un impact qui doit faire. Je pense qu'il y a un risque à la télécharger, mais je pense que ce problème-là doit nous pousser à faire une plus grande pression sur le gouvernement, mais aussi sur les développeurs de l'application pour qu'ils fournissent ces informations-là. Mais il y a aussi le principe que si jamais il y a des failles importantes en matière de sécurité, que ce soit au niveau de l'anonymisation ou que ce soit dans la manière dont l'application fonctionne, ben à ce stade, il est probablement trop tard pour les arranger.
On a une question d'un internaute qui nous dit, Jonathan, donc il nous dit, pour vous, où devrait... du coup, s'arrêter la technologie dans ce cas-là, j'imagine, à le comprendre, dans le cas de la protection des données privées.
Où devrait s'arrêter
la technologie dans ces cas-là, en quoi on devrait effectivement fixer une barrière si elle est...
Mais c'est ça qui est le creux du débat, parce qu'en ce moment, particulièrement en ce qui a trait à ces applications de traçage de contacts-là, on se trouve vraiment avec un calcul coût-bénéfice qui est extrêmement problématique, c'est-à-dire, d'une part, on peut décider de collecter très peu de données, puis avoir des résultats qui sont vraiment pas fiables, ou sinon on peut justement collecter moins de données, mais avoir beaucoup plus de faux positifs et de faux négatifs, puis avoir justement quelque chose qui est absolument pas fiable. C'est pour ça qu'on a besoin d'un débat, c'est pour ça qu'on a besoin de transparence.
Et que dire justement de l'application française Stop Covid qui collectait plus de données que prévu? C'est un chercheur qui travaillait en fait sur l'application elle-même qui a découvert ça.
Oui, donc je pense que qu'est-ce que
c'est une information révélée par Mediapart, c'était le 15 juin sur le site Mediapart.
Oui. Absolument, donc on se rendait compte justement que il y avait de l'information qui était collectée à la fois sur la durée des rencontres et puis justement que même des rencontres qui étaient considérées comme non significatives, donc qui n'étaient pas assez longues, étaient transférées au serveur central. Ben ça, c'est aussi problématique, ça peut faciliter de la désanonymisation et tant qu'on n'a pas d'informations concrètes là-dessus, et qu'on n'a pas cette pratique de transparence-là qui est au cœur du processus, on ne peut pas adresser ces problèmes-là. Et ça, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des fuites de données et avec des enjeux en matière de sécurité et de vie privée.
Yves Gingras.
Écoutez, vous voyez par mon silence que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je dirais même que ça me fait rire. Les gens sont là et s'intéressent. Ah oui, mais ma vie privée, mes données privées, puis tout ça. Alors que comme...
Souligner Martin Gibert, oui.
Tous ces jeunes-là là, donnent à peu près 10 millions de fois plus d'informations de valeur beaucoup plus élevée.
Mais attendez, touchent, ça, c'est de la
santé. Laisse-moi venir. Bien. Qui ne touchent pas la santé. Et donc, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que pendant que ces gens parlent d'éthique, ce qui me frappe, pour moi, c'est un cache-sexe de la technologie. Parce que pendant que les gens parlent de ça, ah oui, est-ce qu'éthiquement, c'est ici, on ne pose pas les questions que je pose constamment, techniques. Je disais, OK, avant de savoir si c'est éthique puis si la balance est en équilibre, là, on peut-tu savoir si la bebelle, elle marche? Après, sinon, on va dire, on peut quand même travailler tout de suite sur une éthique des extraterrestres. Les extraterrestres, là, sont...
Anne-Sophie Letellier, vous vouliez parler.
Ah, ben, je disais juste...
Martin Gibert après, parce que je pense que...
Ben, je peux vous laisser aller. Moi, je disais juste qu'il faut quand même avoir une plus grande responsabilité par rapport aux données de la santé. Puis c'est extrêmement important qu'il y ait de la proactivité là-dedans, que ça marche ou que ça marche pas, parce que... En ce moment, l'application va être développée. Il faut prendre ça au sérieux.
Donc, technique sans éthique n'est que ruine de l'âme. C'est ça que vous voulez dire, Anne-Sophie Letellier. Martin Gibert, je vous laisse répondre.
Non, je n'ai pas forcément d'autres choses très précises à répondre sur ça. Moi, ce qui met dans les enjeux de vie privée, puis ça, on n'en a pas parlé, puis c'est probablement que ça a été réglé. En fait, la première fois que j'ai lu la description de ce genre d'application, la première chose qui a popé dans ma tête trop abstraite d'éthicien, c'est les enjeux de stigmatisation. Mm-hmm. Et ça, j'ai l'impression que les applications qu'on a actuelles, on fait des efforts et que ça va être quand même difficile. Parce qu'on aurait pu imaginer une application où quelqu'un passe dans la rue à moins de 5 mètres de moi et puis il a le Covid et puis mon application sonne, quoi. Mm-hmm. C'était dans les... Il y a des gens qui avaient pensé à ça. Il y a aussi des gens qui avaient pensé à faire des bracelets qu'on mettrait pour les personnes en quarantaine pour s'assurer qu'elles vont pas sortir.
Mais en Chine, c'est allé très loin, en Chine.
En Chine, à Hong Kong, on l'a vraiment fait. Mais moi, je me souviens d'un article dans la presse où un entrepreneur québécois expliquait, moi j'ai la solution. Et oui, peut-être que c'était la solution, effectivement. On aurait vraiment surveillé les gens, ça aurait augmenté la sécurité générale, mais au prix d'un état policier.
On va continuer le débat en fait dans une deuxième partie, mais avant en fait, nous allons avoir notre débrief d'Anne-Sophie Casper dans quelques instants. Qu'est-ce que tu as retenu en fait, Anne-Sophie ?
Eh bien, il s'est dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein, mine de rien, en une demi-heure, pour y voir plus clair dans notre émission. C'est plus clair dans ce riche débat en compagnie, je vous le rappelle, d'Anne-Sophie Letellier, Yves Gingras et Martin Gibert. Mais il ressort quoi ? Il ressort que ces applications sont très critiquables à bien des égards. Hein. On peut dire même imparfaites. Je peux le dire, mais cela peut être mieux que rien pour certains. La solution peut être, selon Yves Gingras, d'écouter les informaticiens et puis de répondre aux besoins de transparence et de tout tester, car je cite, ça s'appelle la vraie science. Anne-Sophie Letellier propose de faire un calcul coût-bénéfice et pour Martin Gibert, bah, ça marchera peut-être. Et si ça marche, bah, ça peut être vraiment extra. Un équilibre est à trouver, à préserver entre sécurité, santé publique et d'un autre côté, la liberté, la vie privée. Le 2 juillet, il y a un risque à télécharger cette application canadienne, selon Anne-Sophie Letellier. La responsabilité doit être, bien entendu, plus grande.
Merci Anne-Sophie. Dans quelques instants, si les solutions de traçage peuvent avoir, on l'a entendu, un impact potentiel sur nos libertés, on va tâcher de comprendre en quoi elles peuvent aussi ne pas bénéficier à tout le monde. A tout de suite.
Je me sens faiblir quand tu me fais lire ce que tu reçois. Si tu veux partir, moi je veux partir avec toi. J'arrive à croire qu'on est déjà rendu là. Si tu veux partir, moi je veux partir avec toi. Dans un endroit où personne nous pointe du doigt.
naissance ou notre ignorance. Avant de te connaître, je pensais vivre au paradis où tout le monde est honnête, bien ouvert des bras.
Louis-Jean Cormier, Les Poings Ouverts, extrait de Quand la nuit tombe, sorti pendant la pandémie. Et c'est le premier album en 5 ans de cet artiste originaire de Saint-Ile qui a gardé la date initiale de sa sortie, qui était le 20 mars 2020, après 2 albums solo vraiment très réussis. Ce 3e opus était très attendu au Québec.
On regarde les plus vieux dans la société, on se rend compte que les plus jeunes ont un impact important sur l'intérêt de branchement des plus vieux.
Ma fille a voulu que j'aille une tablette.
Clairement, mes grands-parents ont des tablettes et des téléphones verts à cause de nous.
Puis maintenant, Maëlle est capable aussi d'appeler ses grands-parents, de leur parler, parce que c'est pas des férus de technologie.
Vie privée, la technologie va-t-elle trop loin? Un balado, c'est Sciencia, animé par Stéphanie Cabre et Philippe Regnault.
Alors Joseph, on vient d'entendre un extrait d'un documentaire réalisé par le Musée de la Civilisation de Québec qui présente jusqu'au 31 janvier prochain, donc 2021, une exposition qui a pour nom « La tête dans le nuage » et qui s'interroge sur les effets de cette fameuse fracture numérique qui éloigne ceux qui ont accès aux technologies puis les autres. On parle souvent, et de plus en plus à tort, des personnes âgées pour identifier ceux qui sont déconnectés, mais ils ne sont pas les seuls. Et on se rend compte que ça pose un problème, notamment dans les applications de traçage sanitaire dont on a parlé, car on sait que si elle veut qu'elle soit efficace, bah, il faut qu'elle soit utilisée par le plus grand nombre.
Oui, en fait, il y a des données du CEFRIO qui ont été publiées récemment et qui démontrent que seulement 73% des Québécois possèdent un téléphone intelligent. Chez les personnes âgées de 55 à 64 ans, on parle de 59%. Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, on tombe à 37%. Et finalement, il y a aussi une fracture en matière de statut social ou de revenus, parce que seulement 53% des individus qui gagnent moins de 20 000 $ annuellement possède un téléphone intelligent. Donc, on voit que c'est effectivement loin de l'adoption totale.
On parlait de stigmatisation tout à l'heure, on peut parler de discrimination, parler de fracture numérique. Justement, est-ce que il n'y a pas un risque, en fait, de creuser le fossé de cette fracture numérique? Je me tourne vers vous, Anne-Sophie Letellier, experte en cybersécurité chez Crypto-Québec.
Oui, je pense qu'on peut poser cette question-là à de multiples niveaux. Je pense, d'une part, oui, on peut se demander si ça peut augmenter la fracture numérique, justement à cause qu'on remarque qu'il y a une corrélation, en fait, entre les personnes qui ont le moins de téléphones intelligents, donc
qui sont les aînés.
Exactement, et les personnes qui sont à plus faible revenu, mais aussi les personnes qui sont les plus à risque de contracter la COVID. Donc, je pense qu'on peut se poser la question, justement, qui est-ce que ces applications-là vont servir et qui est-ce qu'elles vont mettre de côté? Donc, c'est sûr qu'on dit que les applications vont être toutes implantées de manière volontaire, mais il y a quand même ce risque, justement, c'est quoi ton rythme? Non. Donc, je pense pas qu'on aurait le droit de refuser quelqu'un à un magasin, mais moi, c'est une des premières choses aussi à laquelle j'ai pensé un peu comme vous, Martin. Donc, il y a vraiment cette inquiétude-là qui est extrêmement marquante, mais aussi, encore une fois, dans une perspective un peu plus sociologique, je me demande, le fait qu'on mette tant d'importance sur ces applications-là, c'est quel effet que ça va avoir pour les personnes qui n'ont pas de téléphone cellulaire? Est-ce qu'il va y avoir d'autres méthodes qui vont être utilisées? En ce moment, on a le traçage de contact manuel.
Physique, oui, manuel.
Ouais, ben c'est ça, justement, à travers le téléphone. Est-ce que c'est juste ça qu'on va faire? Est-ce que le fait d'avoir une application, ça va faire qu'on va mettre moins de ressources dans ce type de traçage de contact-là? C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment voir ça d'une manière holistique et se demander justement comment ça fait partie d'une boîte à outils et puis de voir comment justement les personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent ne vont pas être laissées de côté.
Martin Gibert et après Yves.
Oui, je suis entièrement d'accord pour dire que c'est lié à des questions de politique de santé publique, mais l'application en tant que telle, elle s'est jamais présentée comme étant la solution. C'est un petit plus. Et moi, il y a quelque chose que je comprends pas trop dans l'argument de la fracture numérique, c'est que encore une fois, si ça marche, hein, évidemment, je suis dans ce scénario. Comme c'est une question d'action collective, même si c'est effectivement que les personnes les moins à risque
les GIC, comme disait
ouais, Yves Gingras. Ça, le fait que eux soient comme c'est un virus, donc un virus il essaye d'aller partout. Donc si ces personnes-là sont moins contaminées, tout le monde en profite. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que ça peut se substituer. Il faut aussi s'occuper évidemment des personnes les plus à risque. Même prioritairement, c'est là où il faut mettre l'argent. Mmh. Mais n'empêche que si les geeks ils téléchargent une application, que ça leur coûte rien et que ça fait un petit peu baisser le taux du virus, ben on perd rien. Quoi.
Yves Jungrand.
Tout ça, effectivement, est hypothétique et ne correspond pas à la réalité. La réalité actuelle, elle est très simple sur le plan sociologique, c'est que le virus, et ça, on pourra faire des tests, là, si j'avais les données de l'Institut de la statistique, je pourrais démontrer ce que je fais comme hypothèse. Le virus n'est pas distribué de façon aléatoire dans l'espace physique actuellement. Il y a une donnée qui vient de sortir, qui est très intéressante, que j'attendais depuis longtemps, qui vient d'annoncer une étude, on verra si elle est confirmée, mais elle est intéressante, que 10% des gens qui propagent sont responsables de 80%.
C'est les super propagateurs.
Super propagateurs. Ouais. Donc, ça correspond à ce qu'on appelle en bibliométrie, au fond, une loi de puissance qui se dit 20-80. Souvent, 20% des personnes sont responsables de 80% de la productivité, etc. Ça veut dire qu'on a un réseau qui est très hétérogène et que la probabilité, si vous êtes dans le réseau du coin gauche, en haut, de propager est infiniment plus élevée que les autres. Donc, tous les gens qui parlent, et je les écoute parce que c'est ma fonction d'écouter la rhétorique, ils parlent comme si l'espace est homogène, que comme vous venez de le dire, le virus, il se propage partout. La réponse, c'est non. 25% des cas québécois sont dans le système de santé. Et maintenant, je pourrais vous rajouter, mais j'ai pas le chiffre, donc c'est une hypothèse, que puisque 25% est dans le système de santé, un autre 25% sont ceux qui sont en relation avec eux. J'ai fait un petit test avec plein de personnes. J'ai dit, connaissez-vous des gens qui ont le COVID autour de moi? Tout le monde a dit non. Je dis, OK, connais-tu, toi, quelqu'un qui a le COVID? Ils ont aussi dit non. Fait que là, je construisais mon réseau à N égale 2. J'ai pas eu le temps de me rendre à 3. Mais ça veut dire que le virus, il est pas homogène. Donc, en plus d'être hétérogène, l'appareil va être utilisé par des gens hétérogènes parce que le revenu médian au Québec, donc la moitié de la population, je m'en souviens pas par cœur, mais disons que c'est en bas probablement de 40 000, OK, ou 50 000. Donc, déjà, la moitié correspond à ceux qui ont pas de téléphone. Et moi, j'en ai pas non plus. OK? Donc, regardons toujours ça, la réalité sociale avant de parler de technologie. Sociologiquement, comme vous l'avez dit, les pauvres n'ont pas, les vieux n'ont pas. Et en plus, le virus ne se propage pas de façon homogène dans un espace abstrait. Il se propage dans le monde réel, Montréal-Nord, Côte-Saint-Luc, dans des endroits précis.
Mais alors donc, vous pensez, Yves Jungrand, qu'il n'y a pas un risque d'ostraciser justement des populations qui vivent dans des quartiers, entre guillemets, qui seraient plus difficiles, puisque ça a été un peu ce qui a été démontré par cette pandémie. On entendait Anne-Sophie Letellier qui disait finalement, c'est pas non plus que les personnes âgées qui sont déconnectées, c'est aussi les gens qui ont des faibles revenus. Or, on sait que c'est eux qui ont été les plus touchés par la maladie. Donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de les isoler?
J'ai rien dit parce que je suis entièrement d'accord. Avec cela, c'est que non seulement il fonctionne pas la technique, mais en plus, on pourrait même créer des émeutes. Parce que supposons que votre téléphone sonne en disant « Toi, t'es à moins de 2 mètres que moi et t'es positif. Qu'est-ce que je vais faire? » Peut-être que je vais t'engueuler. Hein? Peut-être
que justement, la technologie, elle permet pas de faire ça.
Non, mais j'irai plus loin que ça.
Non, la technologie permet pas de faire ça.
Tant mieux. Prenons simplement les masques. En suggérant les masques, on est en train de créer dans certains endroits des bagarres. Parce qu'il y a des excités qui disent que tu n'as pas de masque et qui t'engueule comme du bois pourri. Fait qu'imaginez l'ostracisation.
On
ne peut
peut-être pas généraliser non plus sur des cas particuliers.
Il faut penser aux probabilités sociologiques qui sont très élevées. Ouais. Donc, vous avez raison. Une appli qui ne sera pas utilisée, on dirait, mais pourquoi tu ne l'utilises pas, toi? Il y aurait de l'ostracisation. C'est une évidence, à mon avis.
Anne-Sophie Letellier.
Oui, c'est ça. En ce moment, je pense qu'on peut... Peut-être que c'est moi qui est peut-être défaitiste ou peu importe, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des applications qui vont se développer, qui vont se déployer au Québec, au Canada.
Là, vous n'êtes pas défaitiste, hein, pour le coup. Vous êtes plutôt l'inverse. Vous êtes optimiste.
Je sais pas. Parce que je pense pas que ça va être nécessairement... je pense pas que ça va avoir le résultat qui est escompté. Donc, c'est mon côté un peu plus pessimiste. Réaliste. Mais en même temps... Je suis aussi, j'aimerais ça qu'on me prouve que j'ai tort. Je serais down avec justement le fait que ça aide et puis que ça puisse amener quelque chose de bon. En ce moment, qu'est-ce que je vois qui manque complètement, c'est que justement, on met de l'avant le fait qu'il va y avoir des personnes qui vont être laissées pour compte. Mais j'entends pas dans les discours des politiques publiques qu'est-ce qu'on va faire et comment on peut mitiger ça d'une manière plus efficace.
Justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire quelque chose de plus inclusif?
Déjà, je pense que je m'intéresse beaucoup à la manière dont on peut justement avoir de l'inclusivité dans le développement de technologies. Puis je pense, en ce moment, si on essaye d'inclure des personnes qui ont été laissées pour compte, il va être trop tard. je pense que la première étape, ça aurait été d'aller voir dans le système de la santé, d'aller dire, hey, c'est quoi que vous avez besoin en ce moment, d'aller voir dans les CHSLD, d'aller voir...
Donc, participatif.
Puis dire, c'est quoi qui peut aider votre vie en ce moment? Peut-être que l'application qui aurait sorti de ça, ça aurait été une application pour identifier le lavabo le plus proche. Je ne sais pas, je veux pas aller là, mais je pense que c'est cette étape-là qu'on a ratée. On a essayé d'aller à Y et on n'a pas fait nos ABC avant. Puis peut-être que ça nous a empêché de voir une solution qui aurait été plus efficace. En ce moment, j'aimerais ça peut-être qu'on se questionne sur dans les décideurs politiques sur comment aider ces personnes.
Parce que Martin Gibert, il y a quand même une forme de pression sociale. C'est comme si on nous obligeait quelque part à...
Ah ben non, là, apparemment, ça marche pas trop, en tout
non,
cas.
Non, mais enfin, comme si on devait se sentir obligé, en fait, de...
Ben, c'est sûr que c'est un peu comme le vaccin. Le vaccin, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les autres. Donc ça pourrait arriver. Moi le truc qui me fait un peu peur, c'est pas tant ce dont vous parliez, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'à un moment donné, on va savoir qu'il y a des personnes qui l'ont eu et qui sont immunisées. Mm-hmm. Et donc c'est toute l'enjeu de ce qu'on appelle les passeports immunitaires. Ouais. Où là, on pourrait imaginer que ben, les gens ont le droit de prendre l'avion s'ils peuvent montrer carte blanche, et carte blanche, en l'occurrence, c'est j'ai eu le Covid, je vais plus l'avoir. Et ça, je ne sais pas trop comment le gérer.
Et pour ça prend un téléphone et j'en ai pas. Donc, dans l'avion, je ne pourrais pas leur montrer.
Oh, ça pourrait, bon, mais ça, on va se cotiser pour offrir un téléphone. Et bien grave, ça commence à devenir gênant, cette affaire. On va se faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Il y a des questions de nos internautes et on va essayer d'y répondre. On va peut-être faire des jaloux. On ne pourra pas répondre à tout.
Compositrice, interprète Chloé Pelgag, de son vrai nom Chloé Pelletier-Gagnon, qui est une jeune artiste originaire de Gaspésie. Révélation de l'année en 2014, elle a décroché 5 autres Félix en 2017 et 2018. Et son troisième album, Notre-Dame des 7 douleurs, est déjà disponible en précommande. Sa sortie officielle est dans 3 jours, le 26 juin.
Faites confiance au système.
Parce que ça marche vraiment.
I see trees of green.
Ce qui est privé doit rester privé.
Red roses too. I see them blue.
Je me demande seulement si on doit le faire directement.
Qu'entendez-vous par le faire directement?
Oh putain, fais chier.
And I think to myself,
et qu'est-ce qu'on peut y faire?
Rien n'arrive par hasard.
What a wonderful world.
C'est un cauchemar horrible et sans fin.
Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive, rien n'arrive, rien n'arrive par hasard.
Vie privée, la technologie va-t-elle trop loin? Un balado C'est Science IA, animé par Stéphanie Cabre et Philippe Regnault.
Alors Joseph, on vient d'entendre un extrait d'une bande-annonce de la très célèbre série Black Mirror, diffusée sur Netflix. C'est de la science-fiction, mais c'est une fiction qui, dans la tête de beaucoup de gens, rejoint plus ou moins la réalité.
Oui, c'est quand même assez intéressant, parce que par exemple, il y a eu l'épisode où les gens se donnaient des notes en fonction de l'attitude positive de l'un ou de l'autre.
La Chine l'a fait, vous l'aviez rêvé.
Exactement, le credit score de la Chine. Donc, on peut se demander effectivement si, en référence au Wonderful World dans la bande-annonce, si on se dirige un peu vers un meilleur des mondes, vers un 1984, etc. La question est de savoir, est-ce que nos extrapolations en matière de fiction finissent par être rapprochées par nos efforts collectifs en matière de technologie? Est-ce qu'on se rapproche un peu d'un 1984?
Alors, on le voit, et pas seulement, juste pendant la pandémie, vous l'avez dit, Joseph, depuis des années, il y a cette propension à penser que la technologie peut être une solution à tout. C'est ce qu'on appelle le technosolutionnisme, un solutionnisme technologique triomphant, caractéristique en fait des solutions proposées par les GAFAM, très critiqué par de nombreux penseurs, notamment comme l'universitaire Yevgeny Morozov, chercheur américain qui a beaucoup développé cette théorie de solutionnisme technologique, notamment dans son ouvrage « Pour tout résoudre, cliquez ici ». Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tout vouloir résoudre comme par un coup de baguette magique avec l'aide de la technologie? Je me tourne vers vous, Anne-Sophie Letellier.
Si on veut tout résoudre avec un coup de baguette magique, je pense que c'est clairement une tendance qu'il y a, mais je vais me montrer un peu plus nuancée parce que justement, en ayant lu justement cet ouvrage, des fois j'ai l'impression...
De Yevgeny Morozov?
Oui, ça tombe un peu...
Très intéressant.
Oui, absolument. Des fois j'ai l'impression que ça tombe un peu trop dans le cynisme pour moi, mais...
Très virulent, très critique virulent.
Absolument, puis c'est une critique qui est absolument nécessaire. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions technologiques qui se présentent peut-être comme solution universelle, puis qui nous empêche peut-être de poser les questions les plus profondes. Si je peux donner un exemple très concret, il y a beaucoup d'enthousiasme lié au blockchain et tout ça, en disant que c'est une structure qui peut, justement, quand on le pose dans un système de vote ou peu importe, de résoudre le problème de la confiance, alors que le problème, ben, c'est peut-être la confiance dans nos institutions politiques. Donc, souvent, j'ai l'impression qu'on essaie de trouver un shortcut à travers la technologie. Puis, c'est là que je trouve ça problématique parce que ça nous empêche de voir le vrai problème. Ça nous permet potentiellement de mettre un band-aid, mais si on revient à l'application, ben peut-être que justement le problème de fond ici, c'est des disparités sociales, c'est un système de santé qui a été malmené pendant des années. Bon, on peut pas régler ça pendant la pandémie, mais il faudrait pas qu'une potentielle solution technologique nous empêche de voir
l'arbre qui cache la forêt.
Je pense pas que ça fait ça en ce moment, mais faut pas l'oublier.
Je pense que pour comprendre ça, faut regarder dans l'histoire, ça nous éclaire les choses très clairement. Pendant la crise des années 30, on a inventé un mot qu'on connaît très bien aujourd'hui.
Les technocrates.
Les technocrates. C'était qui les technocrates de l'époque? Ce sont des ingénieurs mécaniques, ceux qui faisaient fonctionner les industries automobiles, c'est le taylorisme, etc. Aujourd'hui, on a les algocrates. C'est ceux qui nous poussent en disant, j'ai toute la solution avec des algorithmes. Donc, ces idéologies-là...
Les gourous, vous parlez de gourous
tout à l'heure. Oui, gourous, les algocrates, c'est eux qui propagent avec bonne foi. Les idéologues, là, ils croient à leur bébelle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand on regarde ça à distance, on dit, attendez un peu, là, le monde est compliqué. La bonne nouvelle, c'est que comme il y a des critiques de ces choses-là, tous ces gourous, prenez simplement quelqu'un comme Jeremy Rifkin, que vous connaissez sûrement, parce qu'il fait gourou après gourou, mais on oublie la société hydrogène, là, il vient de faire le Green New Deal. Donc, ces gourous-là, là, il faut prendre les distances. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va les oublier, on va se calmer. Parce que la technologie, rappelez-vous, en l'an 2000, qu'est-ce qu'on disait? Hey, la nanotechnologie, ça va révolutionner le monde. On a créé Nano-Québec, on va changer le monde. Plus personne parle de ça aujourd'hui. C'est de la bonne techno dans les labos. Ça va servir comme à plein de choses. Comme la technique sert à quelque chose. Mais elle va se désenfler. Le modèle là, qui a été fait aux États-Unis qui s'appelle Hype, Hope et Disillusion. On s'excite. Ensuite, on dit ça marche pas tant que ça. Finalement, on dit, ben c'est utile, puis ça résout 3-4 problèmes. Là. Ça permet de reconnaître mon chat quand il rentre dans la maison, mais ça règle pas les problèmes de la société. Aujourd'hui, on est dans la phase 3, le début de la désillusion, mais les gourous continuent à nous dire, grâce à mon application, je vais résoudre le problème. Donc, il y a une bonne nouvelle, puis une mauvaise.
Martin Gibert, je me tourne vers le philosophe. Est-ce qu'on est dans la caverne de Platon, là, les fameuses... fameuses lumières trop réfléchissantes là, qui nous empêchent de voir la vérité et le bien?
Alors...
et le beau.
Disons que... Il y a c'est clair que si on essaie de regarder ça de très très loin, là il y a comme la technique qui progresse, on a l'impression qu'elle progresse de façon un peu autonome, un peu indépendante, voir que c'est le déterminant principal de tout ce qui se passe. On a aussi évidemment des gens qui ont des idées, qui veulent faire de l'argent avec leurs idées, qui veulent vendre des applications. On a vraiment cette impression que tout est qu'il y a comme un inéluctable, là, que le, si un truc est possible, on va forcément le réaliser. Mais en même temps, c'est pas vrai. Regarde, c'est la preuve. On discute et puis il y a probablement qu'il y a des pays qui vont pas du tout développer cette application. Il y a pas longtemps sur les histoires de reconnaissance faciale, il y a plein d'entreprises qui ont dit non. Finalement, on va pas le faire.
Amazon, Microsoft, IBM qui ont décidé momentanément pour Amazon, mais les autres ont décidé de retirer du marché leur solution.
Donc c'est sûr que c'est la grande question contemporaine.
Est-ce qu'il y a une prise de conscience en fait selon vous?
Depuis longtemps, c'est pas les géants, c'est les employés beaucoup qui ont, les employés de Google au départ là qui ont dit ça va trop loin.
On a justement Martin Gibert, parce que là on a, alors j'essaie de la résumer, c'est une grosse question qu'un de nos internautes nous pose, Emmanuel. Il le dit justement, le fait qu'on ait des apps aussi ciblées pour lutter contre la Covid qui clairement collectent des data, en même temps elles mettent en lumière la réalité du tracking visible ou invisible de nos usages numériques. Est-ce que c'est pas une manière et une occasion de rendre conscients les usagers de leur comportement numérique, finalement, de nous responsabiliser? Il y a aussi cette notion-là, finalement, derrière le fantasme de cette espèce de technosolutionnisme qui répondrait à tout. Il y a aussi peut-être une manière de repenser nos comportements face, justement, à une réalité aussi qui nous gouverne, celle des technologies qui nous entourent.
Mm-hmm. Ce serait à savoir si les applications de traçage de contact pourraient servir un peu de tremplin pour repenser nos habitudes numériques, oui. C'est bien ça. Potentiellement, je pense que ça va être beaucoup dans l'expérience individuelle de tous et chacun. Je pense que aussi quand on développe une application, c'est absolument important justement d'avoir des objectifs clairs. Puis j'espère que ça n'en est pas un là-dedans. Mais je pense aussi pour travailler beaucoup dans sensibilisation en matière de sécurité numérique et protection de la vie privée. Quelque chose que je remarque souvent, c'est qu'on met beaucoup le fardeau de la protection de la vie privée aux citoyens. Donc, c'est le citoyen qui doit savoir se protéger, qui doit prendre conscience de tout ça, alors qu'on travaille contre un système économique qui est basé sur la collecte et la capitalisation de nos données et le tout dans un contexte juridique au Québec et au Canada qui n'est pas à jour avec le contexte. Donc, je pense qu'il faut positionner ça là-dedans et puis dire peut-être avant de faire la morale aux individus ou du moins de prendre un poids qui est trop lourd sur nos épaules, faut regarder les modèles d'affaires et le contexte juridique.
Donc, ce que vous dites, il faut plus de littératie qu'en quelque sorte du citoyen pour comprendre le cadre dans lequel on est.
J'aimerais qu'il y ait plus de littératie chez nos politiciens.
En même temps, il y a quand même une prise de conscience. Puis là, je vais me tourner vers Martin Gibert. Il y a eu la déclaration de Montréal aussi qui a été rédigée il y a un peu plus d'un an de cela. Il y a une prise de conscience quand même des autorités publiques, même au niveau international. On l'a vu très récemment avec le fameux plan qui a été proposé. Il y a quand même une prise quand même de conscience collective, non? Prends la balle au bon et après Martin Gibert.
Non, j'avais écouté.
Non, mais ils n'ont pas le choix. Il y a une nouvelle technologie. On ne sait pas. Il faut la réguler, donc ils font leur job, ça va plus ou moins vite. Moi, ce qui m'a frappé avec les applications en éthique en général, ça prend beaucoup de temps pour développer un argument, etc. Et là, il y avait un truc d'urgence. Ça, c'était radicalement nouveau. Donc, les gens ont fait ce qu'ils ont pu.
Ok, deux choses. Ça me rappelle de dire un mot sur l'éthique. Voyez-vous, en l'an 2000, quand je vous ai dit qu'il y avait la grosse mode, là, tout le monde s'excitait sur les nanotechnologies. Qu'est-ce qu'on a fait? On a soudainement trouvé des éthiciens qui nous disaient « faut faire l'éthique des nanotechnologies ». Donc, je fais un test expérimental très simple. Vous allez sur le site du Conseil québécois de l'éthique de la recherche et de la technologie, qui existe depuis une trentaine d'années, et vous prenez le rapport qui date de 2001-2002, qui s'appelle « l'éthique des nanos ». Donc, je vous dis, prenez ce rapport-là, enlevez le mot « nano », mettez le mot « IA », puis relisez-le, je vous mets 5 $ sur la table, que vous n'en apercevrez pas, puis c'est le même discours. Donc, il y a beaucoup de rhétorique, et l'incarnation de ça, c'est l'outil de marketing que vous avez mentionné, la déclaration de Montréal. Tous les pays, toutes les villes ont fait des déclarations. Je déclare que j'aime les enfants, que je suis contre la guerre. Tout ça est un outil de marketing. Pendant qu'on lit...
Donc, vous dites c'est une pétition de principe dans votre esprit, là.
Totalement, c'est une farce, mais qui, pendant qu'on regarde la déclaration de Montréal, qu'on dit, ah, c'est extraordinaire, les gens sont éthiques. Que font les gens par exemple, dans Ivado Labs? Ivado a été construit par le gouvernement du Québec, ça s'appelle l'Institut pour la valorisation des données. Leur but, c'est de valoriser les données. Qu'est-ce que ça veut dire en français, le mot valoriser? Ça veut dire monétiser les données. OK? Donc, est-ce qu'ils vont s'enfarger dans les fleurs du tapis de la Déclaration de Montréal? Juste les naïfs pensent que oui.
Si les gens à Chivado nous écoutent, ils peuvent nous appeler, hein, d'ailleurs, pour avoir un droit de réponse.
On peut laisser aussi, peut-être Martin Gibert répondre, parce que vous avez participé quand même. Alors, est-ce que c'est...
Oui, avec la, ben oui, puis c'est une première façon de d'identifier des enjeux moraux. Ça fait une petite partie de la job et c'est clairement insuffisant. Mais
et c'est la 15e, hein, parce qu'il y avait celle à Toronto, il y en a eu plusieurs.
On a fait
une quinzaine. Ouais, ouais. Donc c'est un outil de marketing pour Montréal, dont le but de Montréal.
Ben, elle est différente.
Elle est de se mettre sur la table au niveau international. Il faut pas être naïf. Montréal s'est dit, on est les meilleurs au monde en IA. On va donc faire des choses qui mettent Montréal sur la carte. Sociologiquement, ça s'observe. Je n'ai rien contre cette déclaration-là. Ça ne mange pas de pain. Et même, on peut déjà dire que
Il y a une technologie, c'est quand même bien de l'encadrer.
Elle n'est pas encadrée. Elle est auto-encadrée. C'est une déclaration sur une feuille de papier. Et allez voir les contrats et ensuite, vous verrez si tous les contrats de ceux qui applaudissent à ça obéissent à ces principes-là. Il faudra vérifier ça de façon empirique en ayant la liste des contrats avec les organisations GAFA ou... Les
en tout cas, Mila l'a fait visiblement, puisque dans son fameux, dans le fameux COVID qu'il a lancé, il signait en tout cas les principes de cette déclaration. Ça vaut mieux que rien, non, Yves Gingras?
Comme on dit, ça vaut la feuille de papier sur laquelle ça a été signé.
Dernière réaction là-dessus, Anne-Sophie Letellier?
Je vais être très courte. Et puis, il y a une couple d'années, j'allais dans justement une conférence où il y a eu tout un débat sur comment on rendait les algorithmes de l'intelligence artificielle plus respectueux des droits humains. Et puis, en conclusion de ce panel-là, il y a un cryptographe qui a dit comment est-ce qu'on rend les humains plus respectueux des droits humains. Donc, je pense que c'est important d'y penser, mais il faut aussi se responsabiliser, nous, en tant que société. Puis ça, ça en va quand on écrit des algorithmes, mais aussi quand on les gouverne.
Ce sera la belle parole de la fin. Cette émission disponible bientôt en rattrapage. C'est l'heure du dernier débrief. On rappelle notre question de départ. Vie privée, la technologie va-t-elle trop loin? Et dans cette deuxième partie d'émission, mouvementée, hein, on a voulu savoir si nous étions tous égaux face à la technologie et quelles étaient les limites de ce technosolutionnisme. Anne-Sophie Casper, quels sont les trois éléments de réponse à retenir au terme de cette discussion?
J'aurais eu besoin d'un robot, un peu d'AI.
C'est bien, demain c'est break. Hein.
J'ai essayé. Courte synthèse hein, pour y voir plus clair en compagnie. Et merci à nos invités, hein, Anne-Sophie Letellier, Yves Gingras et Martin Gibert. Nous ne sommes absolument pas tous égaux. On l'a vu, on n'est vraiment pas tous égaux. Mais ce ne sont pas que nos aînés hein, qui seront mis de côté avec ces applications, car les personnes qui sont le plus à risque, qui sont socialement et financièrement les plus en difficulté, n'ont pas forcément de téléphone intelligent. La crainte, c'est vraiment cette mise de côté. L'inclusivité est ici essentielle, donc on nous écoute bien fort aussi, que nos propos résonnent à tous. Et puis, comme le spécifiait Anne-Sophie Letellier, peut-être que ça nous a empêché aussi d'avoir des solutions plus efficaces. C'est dommage, mais à la fois on a fait comme on pouvait aussi, le soulignait Martin Gibert. Et puis en référence aux technocrates, aux ingénieurs mécaniques là, des années 30, aujourd'hui, selon Yves Gingras, nous avons des algorithmes, des algocrates, des gourous. Et cette technologie, comme la nano, hein, il y a quelques années, va se dégonfler, vous nous disiez. Et nous sommes au début de cette phase, selon vous, de désillusion, car ça ne règle pas forcément les problèmes. Mais le débat est loin d'être terminé, car cette technologie suscite de nombreux débats, de nombreuses réactions. Et puis, on le voit notamment sur nos réseaux sociaux, c'est vraiment le feu, on peut le dire.
Tout à fait. Merci, Anne-Sophie, pour cette brillante synthèse. Je rappelle que Covishield, l'application de traçage canadienne, va donc être disponible dans un premier temps le 2 juillet. Le Québec ne s'est pas encore prononcé en fait quant à la recommandation ou pas de cette application. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Philippe, je vous laisse conclure.
Merci Anne-Sophie, merci Stéphanie, merci à nos trois invités de ce podcast. Anne-Sophie Letellier, merci beaucoup. Martin Gibert, merci également. Et merci à Yves Gingras. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à tous les internautes qui ont posé des questions. Malheureusement, on n'a pas pu répondre. Effectivement, c'était un feu roulant. Alors, on laissera le soin à la discussion de se faire en dehors de cette émission. On est ravis, en tout cas, de l'avoir suscité le débat. À la réalisation technique, Nchiche Doumbia et toute l'équipe de GTS. À la modération du forum de discussion live sur Facebook. Elle avait du travail aussi. Diana Cardona. Merci à mes camarades de plateau. Donc, Stéphanie Cabre, Anne-Sophie Casper et Joseph Elfassi. Cette émission est réalisée avec le soutien financier du gouvernement du Québec. Merci à eux pour leur confiance. Philippe Regnoux au micro. Vie privée, la technologie va-t-elle trop loin? Pour vous, on l'espère, c'est désormais plus clair. Merci de votre attention. Excellent été à tous.